VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité américaine. Le républicain Donald Trump prête serment aujourd'hui sur les marches du Capitole au cœur de Washington pour succéder au démocrate Barack Obama et devenir le 45e président des États-Unis. Le milliardaire républicain et son épouse Melania vont prendre le thé avec Barack et Michelle Obama avant de se rendre ensemble au Congrès. Des centaines de milliers d'Américains, partisans enthousiastes de Donald Trump ou farouches opposants du prochain locataire de la Maison-Blanche, sont attendus sur les larges pelouses du National Mall, la grande esplanade qui fait face au Capitole. Trois des prédécesseurs de Donald Trump, Jimmy Carter, George W. Bush et Bill Clinton, seront présents, ainsi qu'Hillary Clinton, son adversaire malheureuse dans la campagne présidentielle. L'investiture de Donald Trump comme 45e président des États-Unis comprend plusieurs événements et cérémonies ici à Washington. Le point d'orgue sera la prestation de serment ce vendredi. Eric Maniraquiza.
Donald Trump, Mike Pence et leur famille vont d'abord participer à un office religieux à l'église épiscopalienne Saint John, tout près de la Maison-Blanche. Puis seront reçus par le président Barack Obama et sa femme Michelle pour un thé. Les deux couples se rendront ensemble au Capitole où se tiendra la cérémonie d'investiture. Mike Pence sera investi vice-président par Clarence Thomas, juge de la Cour suprême. Donald Trump, quant à lui, sera investi 45e président des États-Unis par John Roberts, président de cette cour. Il va prêter serment sur la Bible utilisée par l'ancien président Abraham Lincoln et la Bible que sa mère lui a donnée en 1955. Suivra ensuite son discours d'investiture. Juste après, une jeune soprano de 16 ans, Jackie Evancho, chantera l'hymne national, la bannière étoilée. Conformément à la tradition, messieurs Trump et Pence assisteront à un déjeuner au Capitole avant de défiler sur environ 2,4 km le long de Pennsylvania Avenue qui relie le Congrès à la Maison-Blanche.
Toujours concernant l'investiture de Donald Trump, le ballon de football est une sacoche en cuir bombé, d'où son nom. À l'intérieur, de quoi déclencher une frappe nucléaire. Donald Trump, qui sera investi ce vendredi à la présidence américaine, s'apprête à en hériter. Les précisions de John Lindon.
Peu après avoir prêté serment, le républicain prendra le contrôle de la plus puissante armée au monde et de son arme la plus redoutée. Pour lui permettre de déclencher un tir de missile nucléaire à tout moment, la mallette de 20 kilos qui contient la procédure et les équipements de communication nécessaires le suivra partout où il se déplacera, porté par un militaire. Le commandant en chef des armées doit pouvoir, dans un délai de 5 minutes, réagir en cas d'attaque atomique visant les États-Unis. Concrètement, il devra entrer les codes par un canal sécurisé avec le centre de commandement du Pentagone et décider de l'ampleur de la frappe ou de la cible. Il n'a pas besoin de consulter quiconque, raconté en 2008 Dick Cheney, l'ancien vice-président de George W. Bush. Il n'a pas appelé le Congrès. Il n'a pas à consulter les tribunaux. Il possède cette autorité en raison de la nature du monde dans lequel nous vivons. La bombe nucléaire n'a jamais été utilisée depuis Hiroshima et Nagasaki et les pacifistes du monde entier prient pour que Donald Trump n'ait jamais à appuyer sur le bouton.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise en Gambie, les pays impliqués dans l'intervention militaire entamée en Gambie pour contraindre le président sortant Yahya Jammeh à céder la place au vainqueur des récentes présidentielles Adama Barrow ont suspendu l'opération jeudi soir pour donner une dernière chance aux efforts de médiation. L'avancée des soldats était censée reprendre aujourd'hui à midi, heure locale, si Jammeh persiste à refuser de quitter le pouvoir, selon la CDAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. 7 000 soldats venus du Sénégal, du Nigeria, du Ghana, du Togo et du Mali participent à l'opération. Des troupes avaient déjà pénétré en Gambie par le sud-est, le sud-ouest et le nord quand l'ordre de s'arrêter leur a été donné. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé à l'unanimité une résolution présentée par le Sénégal appuyant les efforts de la CDAO pour faire respecter la volonté du peuple gambien. À Washington, le département d'État américain a exprimé son soutien à une intervention militaire en soulignant l'importance de stabiliser une situation tendue. Le Sénégal joue un rôle primordial dans cette intervention en Gambie, même si la CEDEAO et le Conseil de sécurité des Nations Unies ont soutenu l'opération. Le journaliste et spécialiste de la Casamance, Bakary Domingo Mané, pense qu'un nouveau pouvoir en Gambie peut aider à stabiliser le sud du Sénégal. Il a d'abord dit à Abdourahmane Dia qu'il n'est pas surpris par l'intervention militaire de la CEDEAO.
Compte tenu du comportement du président sortant, Yahya Jammeh, qui s'est entêté, disons, à vouloir réunir un peu la volonté des Gambiens qui ont choisi, n'est-ce pas, Barrow comme président de la République. Il a joué avec le temps. La CEDEAO, la communauté internationale, notamment l'ONU, tout le monde s'est mis pour le raisonner. Maintenant, il faut que le président constitutionnellement élu puisse vraiment prendre le rein du pouvoir. Donc, l'un dans l'autre, ça ne surprend personne. Que la CEDEAO intervient là-bas, que la communauté internationale de façon générale intervient là-bas, mais c'est pas personne.
Le Sénégal a toujours géré Yahya Jammeh avec prudence à cause notamment de la crise casamançaise. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose cette fois-ci que Dakar affiche son soutien à Adama Barrow, le nouveau président?
Oui, moi je pense que c'est une très bonne chose, puisque si et seulement si on parvient à éradiquer, j'allais dire, la menace Yahya Jammeh, parce que Yahya peut être possible. Mais s'il y a des prolongements en Gambie qui vont continuer à faire le sale boulot, évidemment la menace est toujours là. C'est-à-dire que le Sénégal va s'assurer d'éliminer carrément, disons, la menace à Yagamé. À partir de ce moment, je pense que le dossier casamancier peut évoluer. Parce que, vous savez, Yagamé sert de base arrière, la Gambie sert de base arrière à la rébellion casamancière, notamment aux hommes de Saint-Sayou. C'est également derrière nous qui font partie de la garde rapprochée, n'est-ce pas, de Yagamé.
Mais il y a quand même l'équation de l'armée gambienne. Est-ce que vous pensez qu'elle sera loyal à Adama Barrow?
Il faut qu'il affiche vraiment son autorité. Ce n'est pas en prenant le bâton, non. Je pense qu'aujourd'hui, il doit s'acheminer des réformes, y compris réformer l'armée, réorganiser l'armée gambienne, qui est complètement limitée, parce que là, franchement, il n'y a pas d'organisation au sein de l'armée. C'est pourquoi il y a des mis à une ligne sur cette armée. Donc, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est de réorganiser cette armée, de manière à créer les conditions d'une armée républicaine. Et à partir de ce moment, évidemment, je pense que cette armée-là, quel que soit le président qui va venir, il va lui obéir.
Bakary Domingo Mané, journaliste et spécialiste de la Casamance au Sénégal. Au Nigeria, au moins 90 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été tuées lorsque l'armée de l'air nigériane a bombardé cette semaine par erreur dans le nord-est du pays un camp déplacé et enfui des violences de Boko Haram. C'est ce qu'annonce le dernier bilan de cette attaque présenté par MSF, l'organisation Médecins sans frontières. Ce bilan pourrait encore s'alourdir. Plusieurs rapports concordants émanant de résidents et de dirigeants des communautés locales font état de 170 tués, a souligné MSF, qui opérait depuis peu dans le camp bombardé de Ran. Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon, le groupe C prend le relais cet après-midi à Oyem avec le choc RDC-Côte d'Ivoire. Les détails sur place à Oyem avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous allons aborder le match de ce vendredi avec la ferme détermination de garder la tête du groupe, a dit en conférence de presse Florent Ibengué. Le sélectionneur principal des Léopards de la RDC promet également que son équipe va jouer face à la Côte d'Ivoire différemment du Maroc.
Et garder la même philosophie, quel que soit l'adversaire. Maintenant, tactiquement, on va pas jouer de la même façon qu'on a joué contre le Maroc.
Du changement attendu également chez les éléphants, annonce Michel Dussuyer, qui parle de la RDC comme un adversaire compétitif, agressif et très généreux.
Il y aura des changements d'attitude, parce que ce premier match, on n'a pas mis tous les ingrédients qu'il fallait dans un match de Coupe d'Afrique.
Oyem, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le second match de la poule C opposera à 19h temps universel le Maroc au Togo. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.